Il demande aussi des interphones aux mitards, donc dans les cachots, point qui avait été promis par Philippe Clotty lors d'une dernière manifestation en 1988 et auquel il n'a donné aucune suite jusqu'à aujourd'hui. Il demande aussi la suppression définitive des prises d'urine qui sont une entrave à l'intégrité individuelle, écrivent-ils. Il demande la fouille des cellules uniquement en présence des intéressés. Et les détenus veulent davantage de loisirs le week-end et le droit au téléphone de 7h à 17h30 pour tout le monde, sans discrimination. Dans cette lettre, donc dans cette pétition, les signataires annoncent qu'une grève sera organisée s'ils n'entrevoient pas rapidement une amélioration de la situation. Alors du côté du service pénitentiaire de l'État de Vaud, on affirme qu'il appartient à Philippe Clotty d'étudier plus à fond les revendications des détenus. Alexandre Pedrazini, chef du service, ajoute que le choix d'une pétition adressée au directeur de la prison représente une formule correcte pour exprimer des plaintes ou des remarques. Philippe Clotty annonce quant à lui qu'il répondra à la pétition des détenus, mais sans promettre de répondre par l'affirmative à toutes leurs requêtes. Pour lui, il s'agit d'un problème de routine, mais dont il faut tenir compte. Les détenus n'ont certes pas d'interphone, mais un bouton d'appel qui permet de garantir leur sécurité, ajoute-t-il. Je leur accorde des audiences et j'avais lancé il y a 3 ans l'idée de rencontres régulières, mais les détenus eux-mêmes n'y venaient plus. Je rappelle, conclut-il, que nous ne sommes ni dans un pensionnat de jeunes filles, ni dans un camp de loisirs. Alors, quelles sont les causes de ce malaise? En fait, elles peuvent être aisément cernées. Les établissements de la Plaine de l'Orbe, et Philippe Clotty le dit lui-même, manquent de personnel qualifié. Les EPO sont de plus actuellement surpeuplés, ce qui a en fait des conséquences importantes sur la vie carcérale. Et de manière plus fondamentale, les détenus se plaignent de la déshumanisation des conditions de détention, plus précisément de l'infantilisation et de la déresponsabilisation des détenus. Cette situation ne concerne pas uniquement les EPO. On se souvient qu'il y a quelques mois a eu lieu à la Chaux-de-Fonds une manifestation de protestation devant la prison pour dénoncer les conditions de détention infrahumaines et le règlement archaïque du système carcéral neuchâtelois. Alors pour parler du malaise qui règne aux EPO, nous recevons ce soir Max, qui est membre de l'Association de défense des prisonniers en Suisse, et qui pour ce soir se fait le porte-parole des détenus. Alors Max, première question, moi j'ai compulsé un tout petit peu les articles qui avaient paru sur ce qui se passe aux EPO, et ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y a une grande opacité sur ce qui se passe derrière l'enceinte des EPO. Qu'est-ce qui se passe? La presse ne relate très peu les revendications des détenus.
Oui, bonsoir. Il est vrai qu'aux EPO, ça va mal, comme ça va mal dans les prisons vaudoises. Et la presse n'en dit mot que quelques fois. Parce que, décidément, quand la coupe est pleine, il faut bien que quelques gouttes en sortent. Philippe Clotty parle de relative incompétence ou de manquement parmi le personnel pénitentiaire, mais je dirais qu'à commencer par lui-même, lui est un incompétent de première, et il se soucie peu, à vrai dire, du devenir de ses pensionnaires. J'aimerais là vraiment personnaliser le problème, parce qu'on vit aussi un temps de transparence à l'Est. Je ne vois pas pourquoi il y aurait opacité ici. Et M. Clotty est un homme qui aurait dû, déjà depuis longtemps, prendre la place de ses pensionnaires, parce qu'il y a, 2 ans, comme à l'accoutumée, il était sous, complètement ivre, et avait pris l'autoroute à contresens. Et il était, à vrai dire, avec un de ses collègues. C'est le collègue qui était au volant, mais lui était aussi sous que son collègue. Et lorsque ils ont atterri sur le bord droit de la route, donc ils ont créé un accident, et Philippe Clotty n'a rien trouvé d'autre que de partir lâchement à travers champs. Et voyez-vous, il revenait d'une beuverie entre juristes, je ne sais quoi, une amicale. Alors voilà le directeur auquel on a affaire. C'est un homme qui a une vie dissolue. Et si on estime que je personnalise et que je fais de la diffamation, eh bien qu'il me traîne devant un tribunal. J'aurai beaucoup de plaisir à parler de ses exactions. Et en plus de cela, à Bochu et à la colonie, il traîne un certain nombre d'employés dont les noms font frémir, tels que par exemple le célèbre Ether, qui, il y a une vingtaine d'années, avait commis des attentats à la pudeur sous l'uniforme de gendarme. C'était effectivement un gendarme. Il y a d'autres personnes qui sont des tortionnaires, et nous avons ici des preuves qui sont des plaintes de détenus et qui ont été authentifiées par des avocats et qui ont été présentées même au juge, au substitut du juge d'instruction cantonale, qui malheureusement n'a pas donné suite. Et évidemment, on peut savoir pourquoi. Le substitut du juge était à l'époque Angèle Barbeza. Eh bien, ces noms qui font frémir sont Chablot, Mayor et Guinchard. Ce sont des gens qui sont à la colonie, et Ether actuellement, c'est lui qui commande la colonie des établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe. C'est un homme qui cherche la provocation et qui cherche à excéder le détenu. Malheureusement, il est toujours là, et parce qu'il est simplement couvert par Clotty, qui s'en fout éperdument du devenir des détenus.
Max, je vous interromps. Alors voilà pour les accusations que vous portez envers Philippe Clotty et un certain nombre de ses collaborateurs. Vous en êtes responsable. Oui. Mais de manière générale, qu'est-ce qui a motivé la pétition de ces détenus? Il parle d'un règlement qui n'existe plus. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu de précision?
On remarque dans cette pétition que la quasi-totalité des points sont repris. Parce que il y a 2 ans, la pétition n'avait pas, tout simplement pas abouti, on l'avait méprisée. Alors maintenant, on remarque que Clotty cherche de nouveau à différer, à gagner du temps. Et aujourd'hui, je n'ai pas connaissance que quoi que ce soit ait été fait. Alexandre Pedrazzini, lui, n'est pas un foudre. Il attend que la retraite vienne et essaie de se tirer d'affaire tant bien que mal. Mais nous aimerions évidemment que justice soit faite, tout simplement justice, parce que on nous a beaucoup accusé de vouloir donner dans l'illégalité, mais nous ne faisons que souhaiter que la loi soit appliquée. Quand la loi plaît à ceux qui veulent la faire appliquer, ils l'appliquent, et quand elle leur déplaît, ils ne l'appliquent pas. Or, précisément, les prisons, enfin tout ce qui concerne la répression, c'est dans ce domaine que la loi est le moins appliquée. Alors moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'attends avec impatience des améliorations, mais ni du côté des détenus, ni du côté de la direction, nous avons quoi que ce soit à filtrer. Et du reste, la direction ne nous informera jamais, nous, Association de défense des prisonniers. Malheureusement, les lettres ne peuvent même pas passer par le courrier normal, alors qu'elles n'ont absolument rien d'offensant. Donc il faut toujours que nous soyons renseignés par la bande, toujours de manière clandestine. Et c'est détestable, parce que le règlement autorise à ce qu'un courrier de ce genre-là soit acheminer de manière normale.
Mais alors, est-ce que vous pouvez plus précisément nous expliquer le ras-le-bol de ces prisonniers? Ils disent on en a ras-le-bol d'être considérés comme des bêtes.
Oui. Les gens que j'avais cités avant, Ether, Chablot, Mayor, Guinchard, etc., de la colonie, sont des gens qui traitent effectivement les prisonniers comme du bétail. Et je dirais même que pire que du bétail, parce que le bétail, on ne l'insulte pas. On n'a jamais vu qu'on insultait une vache ou un porc. Eh bien, ces gens-là sont véritablement méprisés. Et rien, donc, tant que ces gens existeront, tant que ces gens dirigeront cet établissement, eh bien, il n'y a rien à espérer, hélas.
Mais pour vous, Max, il s'agit donc d'un problème de personne et peut-être moins d'un problème de structure ou de fonctionnement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Philippe Clotty, en tout cas, semble déplorer le manque de personnel qualifié dans la prison.
Il est évident que... Non, ce n'est pas le nombre, mais c'est la qualité des gens. Et tous ces gens-là sont forcément... On en revient, hélas, de nouveau des problèmes de personne. Ce sont des gens qui sont des aigris, des vindicatifs, des gens qui ne cherchent qu'à traduire leurs difficultés existentielles, leurs problèmes personnels, les problèmes de couple, des problèmes professionnels ou même crypto-philosophiques, qui cherchent à faire passer leur malaise sur les prisonniers. Alors, on a beau augmenter l'effectif, ça ne servira à rien. Et puis, on ne peut quand même pas leur faire faire 4 ans d'université. Et encore, tout universitaire n'est pas quelqu'un qui est forcément intelligent. Donc, ce n'est pas en essayant de leur donner des cours de psychologie ou Dieu sait quoi qui va améliorer les choses. C'est le contact humain uniquement. Or, avec des gens aigris, des gens qui ne cherchent que la querelle, comment voulez-vous coexister ?
Donc, de votre avis, Max, ou de l'avis de l'Association de défense des prisonniers en Suisse, la situation des EPO maintenant est assez bloquée. Est-ce que vous voyez...
elle est bloquée, elle est grave. La suite, on peut la voir que dans une place nette, faire table rase, changer le personnel, et surtout ces vieux rancuniers, ces gens détestables, cette canaille, disons-le. Ça devient intenable et les gens... Ben, si c'était un, voire deux détenus qui sur une période de 10 ans, se plaignent, on pourrait encore dire que ce sont des problèmes... enfin, que le personnel pénitentiaire est mal perçu par les pensionnaires. Mais ce n'est pas le cas. Toutes les personnes et ceux qui sortent aujourd'hui m'en font part, alors qu'ils n'ont pas du tout été influencés par leur co-détenus. Je ne peux... Bon, il y a bien sûr la prison en soi qui relève encore d'idées reçues vieillottes et évidemment largement dépassées. Et il y a le problème de personne. Donc, c'est évidemment tout qui est à revoir. Mais malheureusement, ceux qui vont repostuler, ça va être de nouveau des gens qui se commettent avec le système et qui ne cherchent pas, qui n'ont aucune volonté de changement, mais au contraire de continuité. Le système pénitentiaire est basé sur la continuité, sur l'inaltérabilité des structures. C'est très grave. C'est très grave parce que c'est la société même qui va en récolter les fruits désastreux.
Les détenus qui ont signé la pétition, je crois qu'ils sont plus de 60 sur 120 détenus que comptent les EPO. Oui. Ils ont l'intention de former une délégation et d'aller rencontrer Philippe Clotty. Est-ce que vous avez des informations plus précises sur ce fait ? Et est-ce que vous pensez que cette délégation et cette entrevue avec Philippe Clotty pourraient faire changer un tout petit peu les choses ?
Mais des délégations, il y en a déjà eu et elles ont été... elles étaient souhaitées par les détenus déjà depuis longtemps, mais Clotty n'a jamais voulu donner suite parce qu'il se sentait évidemment infériorisé sur le plan de l'argumentation. Clotty n'a aucun argument pour négocier, et alors pour lui c'est facile de dire « c'est pas un pensionnat de jeune fille », mais vous comprenez, des remarques de ce genre, c'est de l'infantilisme.
Est-ce qu'il existe des structures, alors, où les détenus demandent un colloque mensuel avec un représentant de la direction ? Est-ce qu'il existe des structures dans lesquelles les détenus peuvent exprimer leurs plaintes ? Ou est-ce que là, si les choses sont inexistantes et les détenus n'ont d'autres solutions que soit de se mettre en grève, soit d'écrire des lettres à la presse ou de s'adresser à vous, à la DPS ?
Oui, alors, diviser pour régner étant la devise de tout établissement pénitentiaire, il est toujours loisible au plaignant d'émettre une plainte qui suivra la voie hiérarchique. Ce n'est naturellement pas ce que souhaitent les prisonniers qui désirent un dialogue, qui désirent quelque chose de constructif pour calmer le jeu et faire de la prison quand même un endroit où on peut passer décemment son temps de détention. C'est une fois de plus ce genre de structure horizontale, de dialogue, c'est quelque chose qui fait peur, surtout aux politiciens des partis de droite dont les membres sont pour la plupart à la tête du département de la répression, c'est-à-dire justice, police, affaires militaires, etc. Remarquez que le parti dit socialiste est en train de malheureusement prendre la même voie, c'est-à-dire que il se gouvernementalise, il se il se neutralise de plus en plus et dans quelques temps, on va passer pour criminel si on s'oppose tout simplement à l'institution.
Mais est-ce que l'association dont vous êtes membre, l'association de défense des prisonniers en Suisse, a un certain nombre de propositions pour faire changer cette situation? On sait que la répression dure ne favorise en tout cas pas ni la réinsertion, ni la vie carcérale. Est-ce que vous avez émis un certain nombre de projets ou de propositions
pour Alors, des projets, des propositions sur l'alternative pardon, à la prison, nous en avons fait, nous en avons à revendre. Je ne veux pas m'exprimer à ce sujet ici, parce qu'il y en aurait effectivement pour un bon bout de temps, mais nous avons des propositions, nous avons même plusieurs propositions visant le même objet, c'est-à-dire que nous avons des pièces de rechange. Eh bien, jamais ces propositions ont été prises en compte, parce que on nous traite d'utopiste, d'idéaliste, et on nourrit simplement à la face.
Mais est-ce que la DPS a eu vent de ce qui se passe plus précisément? Bon, vous avez eu vent de ce qui se passe plus précisément aux EPO. Est-ce que vous avez l'intention de soutenir ces détenus, de populariser leurs revendications? Je ne sais pas, de faire savoir un peu plus précisément ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que vous avez déjà fait des actions dans ce sens?
Alors, bon, on sait que toute action venant de l'extérieur est stérilisée par la censure des murs de la prison et de son actuel directeur. Donc, il n'y a pas grand-chose à espérer, si ce n'est un ou deux jours dans la presse, quelque chose qui est évidemment vite oublié. La presse est en fait pour être vite oubliée. Donc, nous ne pouvons plus faire quoi que ce soit qui permette de d'étendre la situation, parce que quoi que nous fassions, nous sommes considérés comme des terroristes, ou enfin de la graine de terroristes, ou en tout cas des empêcheurs de danser en rond. Alors, évidemment, c'est un argument massu, et là-dedans, nous perdons toute crédibilité, alors que notre action est éminemment légitime. Disons, dans le canton de Vaud, qui est un canton rétrograde, il faut que nous voyions si, dans l'avenir, nous pouvons faire quelque chose. En revanche, dans le canton de Neuchâtel, nous avons une audience et le Conseil d'État nous a invités à une discussion. Donc ça montre bien que c'est ce canton qui est malade, complètement malade de ses politiciens, qui est gangréné par la canaille qui nous dirige. Et il faut que... J'invite les gens à personnaliser, à donner des noms sur ceux qui nous dirigent et qui sont en réalité des gens ivres de pouvoir, mais qui méprisent parfaitement le citoyen. Et n'oubliez pas que le détenu est un citoyen, à part quasiment entière, il a le droit de vote, il est éligible, et ça il faut le savoir, il a le droit de vote et d'éligibilité, Donc, il doit être respecté. Il ne s'agit pas de cautionner l'acte, encore qu'on puisse discuter sur la commission de l'acte et sur la légitimité de celui-ci, ou l'illégitimité de celui-ci. En revanche, toute personne incarcérée doit être considérée comme un homme et avec respect. Voilà.
Eh bien, Max, je vous propose de faire une petite pause musicale avant de se retrouver pour la suite de cet entretien.
D'accord.
De la ruse.
Nous sommes toujours en train de nous entretenir avec Max, qui est membre de l'association de défense des prisonniers en Suisse, pour parler des prisons et plus précisément du malaise qui règne aux EPO, puisque les détenus ont envoyé il y a un mois, une pétition au directeur. Alors Max, les pétitionnaires... Philippe Clotty, pardon, le directeur, a répondu aux pétitionnaires dans la presse, bien sûr, qu'il leur répondrait à la fin du mois d'avril. Est-ce que vous avez des nouvelles? Est-ce qu'il leur a répondu? Est-ce que vous êtes au courant?
Non, alors justement, toujours rien. Et si quelque chose s'était passé, eh bien, j'en aurais été informé de nouveau par voie diplomatique, c'est-à-dire voie clandestine. Là, il est intéressant de noter que la campagne, la pétition organisée par les détenus a été faite entièrement de leur côté et que nous-mêmes avons été surpris par cette pétition, c'est-à-dire que l'ADPS n'y est pour rien. Et c'est heureux de voir que spontanément, des détenus arrivent à se politiser, arrivent à se grouper et à faire front et surtout à triompher de l'individualisme si cher à ceux qui organisent les prisons et la répression. Car pour eux, évidemment, diviser pour régner et on a la paix. Donc l'ADPS encourage évidemment la désobéissance au règlement, surtout plutôt la désobéissance au règlement sacrilège la volonté de vouloir faire respecter le code pénal. Parce que dans le code pénal, il y a, dans les articles finaux, il est réservé le domaine pénitentiaire, quels sont les rapports qui régissent les prisonniers avec le personnel pénitentiaire. Les durées des peines, etc., les modalités d'application des peines.
Mais moi, ça me fait penser à une question que j'ai envie de vous poser, à savoir, vous dites là que vous n'êtes pas ou vous n'avez pas été. Bon, vous n'êtes pas à l'origine de ce mouvement, c'est sûr, mais vous n'êtes même pas vraiment au courant de ce qui se passe. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que la DPS peut fonctionner s'il y a de tels barrages qui sont mis entre l'association et puis les gens qui sont à l'intérieur des prisons. Comment est-ce que vous travaillez?
Eh bien, bon, heureusement que cela n'a lieu que dans le canton de Vaud, et plus précisément à Bochu, parce que le directeur, ne sachant pas comment intervenir par les négociations, le directeur lui-même me hait. Il n'y a aucune possibilité de dialogue. Il en fait une affaire personnelle. Je suis interdit de visite depuis le 23 décembre 86. Donc ça fait bientôt 3 ans et demi. Et alors, les renseignements, ben, nous les glanons par les visiteurs, nous les glanons par certains membres du personnel. Donc, évidemment, tout ceci est bien. Je n'ai pas besoin de me rendre en personne. Ça, c'est inutile. N'importe qui peut faire ce travail parfaitement bien. Mais la DPS peut, en revanche, assez bien fonctionner ailleurs, à Genève, à Neuchâtel, partiellement dans le Valais et dans d'autres cantons suisses, mais surtout évidemment en Suisse romande, enfin en ce qui me concerne en tout cas. Donc c'est un malaise qui est inhérent aux établissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe.
Alors peut-être, je crois que vous avez encore un certain nombre de causes, de sujets à nous faire part. La DPS est toujours en relation avec les prisonniers, et là je crois que vous avez envie de nous parler d'un cas.
Alors que, par exemple, les relations vont assez bien avec Bellechasse. Je dis bien les relations, et n'est pas le pénitencier lui-même, qui a évidemment aussi des tas de problèmes honteux. Mais je profiterai là maintenant du micro pour encourager la résistance de M. Daniel Nader Miliquet, qui est au Bois-Mermet et à qui on interdit déjà depuis 5 mois de voir sa fiancée. On tâche de faire pression sur lui de cette manière pour extorquer des aveux qui, même s'ils sont inexistants, c'est-à-dire que même s'il n'a rien à dire, on veut absolument qu'il parle et qu'il avoue. Hein. On en est vraiment à l'inquisition. eh bien, le juge responsable de cet état de choses, c'est la juge Dessau, mais comme elle est depuis fort longtemps malade, le dossier étant passé entre les mains du juge Givelle, premier juge d'instruction ici à Lausanne, et dont on sait parfaitement la scélératesse, ce juge essaie de maintenir l'impossibilité de visite de sa future femme. Alors, j'aimerais lui dire qu'il continue, d'ailleurs je crois qu'il a bon moral, parce que maintenant il est soutenu. Deux personnes ont pu aller le voir, mais pas précisément celle qu'il aurait souhaitée, c'est-à-dire sa future femme. Eh bien, nous souhaitons à Nano Miliquet qu'il continue de lutter, parce que ça, de toute façon, cette situation ne peut exister éternellement. Les choses évoluent et il faut que ce soit la sagesse des résistants qui triomphent et non pas la scélératesse des juges. Puis, une deuxième affaire qui me tient à cœur, mais que je n'ai encore pas pu inaugurer, c'est l'affaire tragique, le cas tragique de M. Maurice Jomini, qui actuellement dépend du juge Rudet. Et vous savez, Maurice Jomini, c'est ce monsieur qui devait voir sa fille, et la mère ne voulait pas qu'il voie sa fille, et la mère avait téléphoné aux flics. Les flics avaient pris fait et cause pour la mère, et lorsque le père était venu prendre sa fille dans la voiture, eh bien les flics lui avaient enjoint de rendre immédiatement la fille à la mère, sur quoi il n'a pas obtempéré. Il est rentré dans la voiture et il est parti avec la fille, et les flics n'ont pas hésité à tirer dans la voiture. Il faut être complètement fou, complètement cinglé, en vérité être ce que les flics n'ont jamais cessé d'être, de vraies canailles. Et ces bandits qui sont tout simplement du bon côté de la barrière, n'est-ce pas, les flics, actuellement n'ont même pas été cités dans le rapport du juge d'instruction Rudet, parce que le juge fait corps avec la police. Et, n'est-ce pas, on assiste une fois de plus à cette immense monolithe du pouvoir judiciaire et de la police, et puis ajoutons la prison évidemment, qui fait que chacun, pour ne pas désavouer l'autre, est prêt à tous les mensonges et toutes les compromissions. Et là, le juge Rudet s'est lâchement compromis à vouloir s'est entêté à ne pas vouloir parler des flics. En revanche, je crois savoir que le nouvel avocat de M. Jomini va poser plainte pénale mise en danger de la vie de M. Jomini par les flics. Eh bien, je souhaite que l'avocat triomphe de la scélératesse de ce juge, et que M. Jomini, que évidemment je n'ai pas pu aller voir, puisque le juge Rudet m'a interdit d'aller le voir. Alors, qu'est-ce que le juge Rudet a à cacher, n'est-ce pas, puisqu'il s'agit simplement d'aller faire une visite de courtoisie et d'amabilité à M. Maurice Jomini.
Voilà, Max, pour terminer, peut-être, vous avez tout à l'heure dressé un tableau assez noir de la situation aux EPO. Est-ce à dire que, selon vous, il n'y a pas d'évolution positive possible, et que, en fait, les choses risquent de se perpétuer encore quelque temps?
Alors, dans les conditions actuelles, il n'y a pas d'évolution positive possible. Il faut de nouveau l'épreuve de force. Il faudra, je pense, que les prisonniers aboutissent à une grève, et que la situation se tende pour qu'il y ait éventuellement de nouveau quelques concessions, mais des concessions vraiment au compte-gouttes, et qui nous font vraiment perdre espoir quant à la dignité de ceux qui dirigent l'établissement. Je crois que je n'ai plus rien à ajouter à cet égard.
Voilà, Max, merci pour ces précisions. L'ADPS, donc l'Association de défense des prisonniers en Suisse, eh bien, on l'entendra encore certainement sur les ondes d'Acidule. En tout cas, n'hésitez pas à nous appeler si vous avez des informations. Merci.
Avec un cœur si dur comme un vieux tas de pierre. Et d'autres qui jamais ne m'avaient rien promis. Qui m'ont offert la grâce qui purifie. Hey, j'ai vu des gens se prendre tellement au sérieux. Qui ne sont que des pitres aux yeux de l'infini. Et d'autres qui sont pris pour de simples d'esprit. Qui sont les vrais seigneurs dans ce monde pourri.
19h30 sur Acidule 102.8, ce journal est terminé. Il vous était présenté par Kexion Régie et par Christine Dupertuis au micro. Je vous laisse en compagnie des musiques latino-américaines. Bonne soirée sur Acidule.